La question de la guerre s'est toujours posée dans le christianisme, même sous cette forme la plus brutale. Un chrétien peut-il porter des armes ? On sait qu'il y a eu dans le christianisme même de nombreux objecteurs de conscience qui refusaient même de faire leur service militaire à l'époque où cela existait encore. Sur ce point de savoir si un chrétien peut porter les armes, certains ont répondu catégoriquement non, en fonction du commandement « tu ne tueras pas ». D'autres ont contourné cela en disant que ce commandement « tu ne tueras pas » ne doit pas être lu comme cela, mais il est écrit textuellement « tu ne commettras pas de meurtre », ce qui n'est pas la même chose. Et puis par ailleurs, ceux qui ne sont pas opposés à la guerre disent que de toute façon, dans le christianisme, la vie physique n'est pas quelque chose d'ultime, d'ultimement sacré. C'est-à-dire que ce n'est pas la chose la plus importante, inconditionnellement importante au-dessus de tout. Et la preuve de cela, c'est la vie même du Christ, qui a accepté de mourir à 33 ans pour ses idées, montrant ainsi que ses idées valaient plus que sa propre vie physique. Alors que si la vie physique était l'ultime valeur et qu'il ne fallait en aucun cas sacrifier la vie physique, eh bien Jésus aurait dû renier ses idées pour rester en vie, ce qu'il n'a pas fait. Dans la Bible, on trouve un petit peu de tout. Et je vous ai fait entendre tout à l'heure ces deux passages des prophètes assez étonnants, entre Ésaïe 2, qui dit que dans les temps ultimes, l'humain sera appelé à, où on lui dit, fondez vos épées pour faire des socs de charrue, fondez vos lances pour faire des serpes. Mais voilà qu'en Joël 4,10, on trouve le contraire, et il y a un appel disant « fondez vos socs pour faire des épées et fondez vos serpes pour faire des lances ». Donc vous voyez qu'on peut très bien trouver des versets dans un sens comme dans l'autre, et donc il n'est pas question dans ce genre de sujet comme dans aucun d'ailleurs, de faire des querelles de versets en opposant un verset contre un autre. Quant à Jésus lui-même, il se présente plutôt comme un pacifiste, c'est à peu près évident. Il y a en particulier ce très célèbre « Ne résistez pas aux méchants » de Matthieu 5, 39, et son attitude générale était plutôt non-violente. Lui-même, quand il est agressé à la fin de son existence, ne résiste pas, et il sermonne même Pierre, qui voulait sortir son épée pour combattre au moment de son arrestation, et il dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau, car ceux qui lutteront par l'épée périront par l'épée. » Mais ce à quoi rétorquent les gens de l'autre camp, c'est que les disciples de Jésus portaient quand même une épée, puisque Pierre en avait une, et donc Jésus ne leur a pas interdit de porter l'épée. Et de même, l'Évangile, lorsqu'il s'adresse aux soldats à propos de l'épisode de Jean-Baptiste, ne condamne pas du tout les soldats, mais il leur est dit « Contentez-vous de votre solde et n'abusez pas de votre pouvoir, ne faites pas d'injustice. » Et donc, à aucun moment, l'Évangile ne dit aux soldats de cesser d'être des soldats. Et puis, par ailleurs, on peut voir simplement que d'autres passages qui vont dans l'autre sens, certains relativement gentils, je dirais, comme Jésus qui se fait un fouet au moment de l'épisode des marchands du temple, et il renverse les tables et il fait des tas d'actions de violence, mais bon, il ne tue personne apparemment, mais quand même, donc Jésus à un moment donné utilise une violence physique. Et puis il y a ce passage nettement plus compliqué de Matthieu 10, 34, quand Jésus dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Et donc on voit qu'il y a effectivement certains passages plus complexes concernant le rapport de Jésus à la violence. Ces quelques passages louant la violence dans l'Évangile sont quand même très minoritaires. Donc je crois qu'il faut être juste de penser que globalement Jésus est quand même plutôt du côté de la paix que du côté de la guerre. Mais néanmoins, ces quelques passages de violence montrent qu'on ne peut pas interpréter l'Évangile comme un pacifisme béat, comme un pacifisme à tout craint, Oui, globalement, c'est plutôt la paix, plutôt la parole, la concertation, le questionnement. Mais peut-être y a-t-il des situations extrêmes où la violence peut être légitimée. Et en tout cas, on ne peut pas, je dirais, tirer simplement de l'Évangile une position purement pacifiste. Aujourd'hui, je dirais, l'opinion publique est un petit peu complexe. Parce que si l'on interroge l'homme de la rue, globalement, la majorité de nos contemporains, disons qu'ils sont absolument contre la guerre et donc afficheront des positions plutôt pacifistes. Et néanmoins, ce qui montre que les choses sont complexes, non seulement dans l'Évangile, mais même dans notre société, mais néanmoins, aujourd'hui, cette même opinion publique loue avec ferveur les exploits de la résistance pendant la guerre de 40, qui était loin d'être pacifiste, et qui ne faisait pas toujours la distinction entre les militaires et les civils. Et d'autre part, aujourd'hui, on valorise avec une infinie conviction l'action de De Gaulle et l'on condamne absolument celle du maréchal Pétain. Or, De Gaulle, c'était l'action violente et Pétain, c'était la paix avant tout. Et par conséquent, c'est assez curieux, je trouve, de voir que l'opinion publique, alors qu'elle condamne globalement plutôt la guerre aujourd'hui, finalement, quand elle se retourne vers son passé, valorise l'action guerrière contre l'action pacifiste et diplomatique d'une façon totalement unilatérale, à tel point qu'aujourd'hui, il est presque interdit par la loi de dire du bien du maréchal Pétain. Cela montre donc que les choses sont un petit peu complexes. Parce que il est à peu près évident, je crois, qu'il y a des situations qui peuvent en effet justifier la guerre et la violence. Et cela, je crois qu'en tout cas aucun intellectuel aujourd'hui, ou très peu d'intellectuels, peut se permettre de dire le contraire. De même qu'aujourd'hui, la police n'est pas très aimée, mais néanmoins, personne ne pense que ce serait très bien qu'il n'y ait aucune police, qu'il n'y ait aucune prison et aucune justice dans un pays. Et donc finalement, tout le monde pense que la force est indispensable pour l'équilibre de la société et pour l'équilibre des sociétés. La question donc qui se pose, ce n'est pas de savoir s'il est légitime ou non d'utiliser la force. Je crois qu'à peu près, oui, bien sûr, cela l'est. Mais la question, c'est de savoir quand c'est légitime et de quelle manière. Cette question-là a été étudiée longuement dans l'histoire de la théologie chrétienne par ce que l'on appelle la théorie de la guerre juste. Et le premier théoricien de cette question, c'est Thomas d'Aquin, au XIIe-XIIIe siècle. Et Thomas d'Aquin a là mis les bases d'une réflexion qui est encore utilisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde, tous les spécialistes aujourd'hui de la guerre et des conflits, quand ils théorisent et réfléchissent sur la question de la guerre juste, se réfèrent toujours aux trois points de Thomas d'Aquin, ce qui est assez étonnant. La question après, c'est de les interpréter. Selon Thomas d'Aquin, donc je vais vous dire ce qu'il disait lui et ce qui est repris aujourd'hui par à peu près tout le monde. Selon Thomas d'Aquin, pour qu'une guerre soit juste, il y a trois conditions. La première, c'est dit en latin, c'est l'auctoritas principis, c'est-à-dire l'autorité du prince. C'est-à-dire que la guerre ne peut relever que de la puissance publique, sinon elle est un crime. De même, la justice ne peut pas être faite par un simple individu, mais cette action violente doit être décidée par une puissance légitime et pas pour des questions personnelles et pas par des individus pour eux-mêmes. Première condition. La deuxième condition, c'est la causa justa, la cause juste. C'est cette notion qui est la plus compliquée, donc de dire la violence peut être légitimée quand elle est pour une cause juste. Reste de savoir quelle est cette cause juste. Et la troisième condition, c'est l'intentio recta, c'est-à-dire l'intention droite. C'est-à-dire que l'intention ne doit pas être entachée de causes cachées, mais doit être uniquement dans le but de faire triompher le bien commun et la paix. L'intention droite dans la mise en œuvre des moyens, c'est là que ça intervient, est en gros l'évitement des dommages, les principes de proportionnalité, et qu'il ne s'agisse pas de faire mal gratuitement, mais de faire du mal dans un but ultime, qui est en général vu comme étant la paix. Alors la question, c'est d'interpréter ces trois conditions de Thomas d'Aquin. L'opinion courante, elle pense, on repart encore de l'homme de la rue, je dirais, pense que globalement la guerre est défendable seulement si elle est défensive. Je crois que cette opinion est extrêmement insuffisante. Et sur ce point, je m'appuierai sur la réflexion d'un des grands théoriciens de la guerre aujourd'hui, qui est Yves Roucault, qui est un politicien et philosophe, qui a mené une réflexion là-dessus, qui est actuellement conseiller auprès du gouvernement d'ailleurs, qui est professeur d'université et qui se trouve être l'un de nos paroissiens, puisque je l'ai baptisé de mes propres mains il y a peu de temps. Et donc voilà ce qu'il en conclut de cette affaire, c'est de dire que cette opinion courante de dire « la guerre est juste seulement si elle est défensive » est tout à fait insuffisante. Et en fait, c'est très simpliste. Ni Thomas d'Aquin, ni Augustin avant lui ne défendent vraiment cela, parce que c'est impossible à défendre. D'abord, parce que bien souvent, la question de savoir qui a commencé est impossible. Cela, je le sais avec mes propres enfants. Quand ils se disputent et arrivent à un niveau de violence assez important, il est impossible de savoir qui a commencé. Parce qu'en fait, il peut y avoir des provocations qui précèdent les actions. Il peut y avoir des actions minimes qui engendrent des actions plus importantes, ce qui fait que savoir qui a commencé est aussi compliqué de savoir qui a précédé l'autre de l'œuf et de la poule. Par conséquent, c'est déjà assez compliqué. Et puis, d'autre part, le concept de légitime défense est, je crois, une des choses les plus antichrétiennes qui soit. C'est-à-dire que la légitime défense consiste à dire « je peux faire du mal pour me défendre moi-même ». Or là, je crois que l'Évangile est très clair. L'Évangile invite plutôt à ne pas résister aux méchants. Et donc, si jamais un méchant m'attaque, d'un point de vue purement évangélique, je devrais plutôt ne pas me défendre, en quelque sorte. À aucun moment, l'Évangile ne dit que l'on peut se défendre soi-même. Et donc la légitime défense ne peut trouver, à mon avis, aucune légitimation dans l'Évangile lui-même. À la limite, un chrétien peut se laisser tuer, mais la raison de la violence n'est pas, à mon avis, sous-tendue par la légitime défense, parce que l'autre a commencé. Mais la seule légitimation de la violence peut être non pas pour se défendre soi-même, mais pour défendre un autre. Et là, la chose devient beaucoup plus intéressante. Parce que du coup, on sort, je dirais, de ces propos du Christ qui dit « si on te frappe sur la joue gauche, dans la joue droite, donne à qui te demande, ne te défends pas vis-à-vis de celui qui veut te prendre ». Mais là, il n'est pas la question de savoir ce que l'on fait vis-à-vis de l'autre qui est oppressé, de l'autre qui est maltraité, de l'autre qui est violenté. Est-ce que le chrétien peut regarder sans rien faire son prochain, son frère, se faire violer, se faire blesser, se faire tuer, se faire maltraiter ou torturer? C'est là que la question devient plus intéressante. C'est que je crois que, à la limite, le chrétien peut se laisser tuer, mais il a le devoir de défendre son prochain et de défendre le plus faible. Et donc, il y a un devoir de légitime défense du plus faible. Je peux attaquer pour en défendre un autre, ou pour défendre des populations, ou pour défendre des êtres opprimés. Voilà. Maintenant, la question, c'est de savoir que veut dire défendre. Et là encore, vous allez voir que les choses ne sont pas si simples. Parce que l'on pourrait dire que si effectivement je suis témoin d'un acte de violence sur un plus faible, je peux moi-même défendre ce plus faible. Mais curieusement, Thomas d'Aquin lui-même va plus loin que cela, et il dit que l'on peut même attaquer l'ennemi en fonction de quelques fautes. Et par conséquent, il n'est même pas question pour Thomas d'Aquin de dire « je ne peux utiliser de la violence que si l'autre a déjà commencé vis-à-vis d'une tierce personne », mais Thomas dit même que je peux attaquer. Pourquoi ? Eh bien parce que il ne s'agit pas simplement de défendre, mais peut-être d'attaquer pour lutter contre un mal. Parce que pour Thomas, la guerre juste, c'est une guerre qui lutte contre une injustice, et ce n'est pas simplement pour défendre, pour se défendre par rapport à une autre violence. Mais elle peut servir à attaquer pour, comme il dit, châtier des coupables. L'expression n'est pas très moderne. Mais cela veut dire qu'il peut y avoir un droit d'intervention au nom de l'humanité souffrante, un droit d'intervention humanitaire. On peut attaquer, il peut y avoir une autorisation d'intervention, je dirais, pour châtier des gens qui font le mal. Il peut y avoir un droit d'attaquer pour défendre son prochain, même si soi-même on n'est pas attaqué, pour réprimer le méchant et pour secourir des victimes. Donc il peut exister une guerre offensive, juste en tant que chrétien, parce que le chrétien se sent responsable des autres. Et il peut y avoir des situations où rester en paix serait se rendre coupable de complaisance vis-à-vis du mal, de non-assistance à personne en danger, de complicité de meurtriers et de tortionnaires ayant des actions inhumaines sur certains peuples ou certains frères en humanité. Et Thomas développe là encore un autre thème qui est extrêmement important, qui est celui de paix mauvaise. Il dit que la paix, peut-être, n'est pas toujours supérieure à la guerre, qu'il peut y avoir des paix mauvaises, c'est-à-dire la paix qui est l'équilibre de la terreur, une paix qui serait de dire, bon, on se déteste et on se hait, mais en attendant que l'un des deux soit plus fort pour attaquer, on va rester en paix. Ça, c'est ce que Thomas appelle la paix mauvaise. Et c'est effectivement quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que cela ne peut pas durer. Cette paix mauvaise, on en a eu un exemple juste avant la guerre de 40, avec ce que l'on a appelé les accords de Munich, où, vous savez, il y a eu un accord entre Hitler et les différents dirigeants de l'Europe, où Hitler a obtenu que l'Europe, enfin que la France et l'Angleterre, je crois, laissent tomber la Tchécoslovaquie, auxquels ils avaient promis l'assistance et l'aide. Et dans les accords de Munich, et donc il s'est agi d'obtenir la paix au prix d'une trahison. À Munich, les dirigeants ont laissé un système où on ne vient pas au secours du malheureux et où on perd de vue sa propre moralité. C'est-à-dire que c'est une paix obtenue au prix de l'abandon de sa propre moralité. Ça a été obtenu lâchement, donc ces accords obtenus lâchement avec Hitler en abandonnant la Tchécoslovaquie. Et Winston Churchill, à ce moment-là, était tout à fait opposé à cela. Et il a dit cette parole éternelle. Winston Churchill avait souvent des phrases éternelles qui sont assez bien tournées. Et il a dit « Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. » Il avait raison. Il y a donc une mauvaise paix qui n'est pas toujours supérieure à la guerre. Et il peut y avoir un droit d'aller soutenir les malheureux. Et ce droit n'est pas simplement un droit, ce peut être un devoir. C'est en ce sens que le barbare, je dirais, fait la guerre parce qu'il aime la violence, mais que le juste fait la guerre non pas par goût, mais par devoir. Et que je ne connais aucun, même militaire, qui dise être pour la guerre. Il est évident que tout le monde est pour la paix. Saint Augustin lui-même a dit « Les barbares font la guerre parce qu'ils le veulent, les justes parce qu'ils le doivent. » Ça reste une phrase extrêmement éternelle. Quant à la guerre humanitaire, même préventive, elle est donc, je dirais, basée sur ce verset du psaume 82, comme je vous le disais, utilisé dans presque toutes les réflexions sur la guerre, quand le psalmiste dit « Soutenez le pauvre et le malheureux et libérez-le de la main de l'oppresseur ». Alors bien sûr, il faut essayer la négociation, il faut essayer toute forme de diplomatie, et cela tout le monde est d'accord. Mais même pour Augustin, Augustin va même plus loin en disant qu'il peut même être vertueux de se réjouir de l'agrandissement de son empire si son empire permet de donner plus de paix à ceux qui se trouvent là. Donc vous voyez qu'il y a dans la pensée chrétienne des pensées extrêmement ambiguës et complexes. Quant au rôle de l'autorité extérieure, c'est extrêmement intéressant, et là-dessus, les protestants aussi sont dans une grande ambiguïté. Parce qu'il y a dans la Bible une volonté, de dire « soumettez-vous aux autorités ». C'est, ça se trouve dans Paul, et où l'on dit qu'aucune autorité n'est donnée, personne n'a autorité si Dieu ne le lui a donné, donc il faut être soumis aux autorités. Et le protestantisme a d'ailleurs continué à prêcher, la soumission aux autorités. On dit globalement qu'il faut respecter la loi, qu'il faut être honnête, qu'il faut être rigoureux et qu'il faut être un bon citoyen. C'est ce que nous prêchons. Et pourtant, les protestants ont été les premiers à se révolter contre l'autorité politique. Et les chrétiens eux-mêmes ont toujours su, quand il le fallait, se révolter contre le pouvoir qui les asservissait. Il y a donc là une ambiguïté assez complexe. Mais néanmoins, il est vrai que la justice ne peut pas être faite par soi-même et qu'il y a la nécessité, à un moment donné, d'en référer à une autorité supérieure et de dire qu'on ne peut pas régler soi-même ses propres comptes, que ça ne peut pas être un individu qui se défend lui-même. Donc ça, c'est le fait que même dans le pays, il y a la légitime défense et l'extrême limite, mais qu'on ne se fait pas police soi-même, et qu'on ne peut pas agir dans ce domaine pour des mobiles personnels, mais on ne peut agir que pour des mobiles supérieurs. Mais néanmoins, il ne faudrait pas interpréter cette clause de Thomas comme une soumission aveugle aux gouvernants et aux autorités, parce que Thomas a toute une discussion très, très complexe à ce sujet, à propos des autorités elles-mêmes. Et il commence par poser la question de l'autorité, en disant que, finalement, il ne défend nullement l'obéissance inconditionnelle à l'autorité politique ou à une autorité supérieure, mais qu'il y a une question de responsabilité, parce que, pour Thomas, on ne doit l'obéissance qu'à une autorité légitime. Or, une autorité n'est légitime que si elle est elle-même ouvrière de la paix. Et que par conséquent, si un pouvoir, quel qu'il soit, n'utilise pas son pouvoir dans le sens de la paix, mais dans un autre sens que celui-là, alors c'est un pouvoir d'usurpateur, et il n'y a aucune nécessité d'obéir à un usurpateur, c'est-à-dire que ce n'est pas un pouvoir légitime, en quelque sorte. Et il y a donc toujours, même pour Thomas, le devoir, la possibilité de la désobéissance. Je vous rappellerai d'ailleurs que même dans le droit militaire, il est toujours prévu que le militaire puisse désobéir pour des raisons supérieures à celui qui le commande. Et donc, on est toujours renvoyé au problème de la responsabilité personnelle, qui est de soumettre toute chose et de discerner le bon du moins bon. Alors, une autorité légitime, c'est celle qui fait justice, et ce n'est donc pas toujours le cas, et il y en a qui portent le glaive alors qu'ils ne devraient pas, et il n'y a pas de devoir d'obéir à un usurpateur ou à un chef qui ne mérite pas, son pouvoir. Si le prince n'a pas l'autorité au sens propre, rien ne m'oblige à lui obéir. Tout le monde est d'accord, c'est le principe d'autonomie de la conscience. Et donc l'autorité peut et doit être jugée par la personne, même si tout le monde est d'accord. Si le monde entier, l'opinion publique est d'accord dans un sens, l'être humain doit toujours continuer de se poser la question pour rester dans son autonomie, de la valeur morale. On en a vu quelques exemples encore pendant la guerre de 40, avec des théologiens comme Dietrich Bonhoeffer, qui a justement défendu cela en s'opposant au régime nazi. D'ailleurs, il a été mis à mort, je vous le rappelle, le pasteur Bonhoeffer a été mis à mort par les nazis, et il a montré la valeur du courage de savoir dire non à l'immoralité et de savoir dire oui à la moralité en utilisant son devoir de discernement. Le but, en tout cas, quel qu'il soit, c'est toujours la recherche de la paix, la recherche de la bonne paix, et reste la question des moyens. Alors, la guerre juste recherche la paix, non pas la paix mauvaise, nous l'avons vu, mais la vraie paix, la paix que le Seigneur a voulu, c'est-à-dire la paix qui permet à chacun d'être libre et heureux dans son pays. Mais nous avons aussi là la façon chrétienne, le troisième point de Thomas, la façon chrétienne d'exercer la violence ou de faire la guerre, parce qu'il y a des guerres entre pays, mais il y a aussi des guerres entre personnes. Et là, ce que dit Thomas, et je crois que ça reste encore aujourd'hui très vrai, c'est que même dans la guerre, il peut y avoir une façon chrétienne de faire la guerre, c'est-à-dire de rester dans une intention droite. Et l'intention droite, c'est de ne pas vouloir nuire, mais de chercher un bien supérieur et de ne pas se complaire en quelque sorte dans le fait de faire souffrir l'autre pour rien ou de faire du mal sans raison. L'intention droite, c'est de toujours garder son but. Et même dans la guerre, il y a un droit des gens, je dirais, qui subissent cette violence. Ce droit des gens l'a donné, je crois, une sorte de consensus international sur l'interdiction de la torture, sur la préservation des populations civiles, contre les massacres de populations, ou tout ce qui fait que l'on oublie l'humanité de l'homme. Parce que la fin de toute chose, c'est l'humanité de l'homme, et qu'il doit toujours y avoir un respect de l'humanité de l'homme, et donc ne pas tomber, évidemment, dans la cruauté. Ça, c'est l'intention droite de Thomas d'Aquin. C'est la même chose, je crois, dans les conflits personnels. Souvent, en tant que pasteur, je suis interpellé par des gens qui sont victimes de violences, d'injustices ou de méchancetés de différents ordres et qui éprouvent des scrupules chrétiens à se défendre et justement à faire un procès, par exemple, contre celui qui abuse d'eux. Et souvent, la réponse que je me vois obligé de donner, c'est de dire « Il n'est pas antichrétien que de vouloir faire triompher la justice. La seule chose qui est antichrétienne, ce serait de le faire par haine. » Et que par conséquent, c'est ça l'intention droite de Thomas d'Aquin. Je peux faire un procès à mon voisin pour lui faire entendre le droit, mais cela doit être fait sans haine, c'est-à-dire sans ressentiment et sans simple volonté de lui nuire. Mais bien sûr, il est évident que tout cela doit être des derniers recours et que le passage par la parole et la diplomatie est toujours préférable. Cela, on le sait bien, mais on sait bien aussi que cela ne permet pas toujours d'aboutir. Et donc, on peut s'attaquer au mal sans haine. On peut essayer de faire comprendre à l'autre qu'il se trompe. On peut l'empêcher de nuire. On peut le faire intelligemment, mais sans esprit de vengeance. Mais maintenant, la guerre ou la violence, par-delà toutes ces théories qui sont intéressantes, un peu intellectuellement et néanmoins très importantes, par-delà ces théories, la violence, c'est parfois aussi, au contraire, la violence que l'on subit soi-même. Et tout le monde n'est pas amené à décider, je dirais, des destinées, des guerres ou des conflits. Mais c'est souvent, le plus souvent peut-être, pour la plupart des humains, la violence qui est subie injustement. Ou même justement, parce que subir une violence méritée, en quelque sorte, est peut-être encore plus dur que de subir une violence imméritée, parce qu'en plus, on s'en veut à soi-même. Et dans tous les cas, être dans un conflit est une des choses les plus difficiles à vivre pour un être humain, parce qu'il y a un sentiment d'impuissance, un sentiment d'injustice, un sentiment de souffrance, des deuils à surmonter. Et on peut se demander ce que Dieu fait dans tout cela. Et le Dieu dans lequel on croit, où est-il, lui, dans ces conflits, dans ces batailles, dans ces guerres, dans ces deuils, dans ces destructions, dans ces ravages, grands ou petits, au niveau planétaire ou au niveau personnel et simplement relationnel? Et il semble bien, ça c'est une des grandes interrogations du XXe siècle, il semble bien que souvent Dieu soit absent de ces conflits, que Dieu ne fasse rien, et que Dieu n'a pas empêché la boucherie de la guerre de 14, que Dieu n'a pas empêché Auschwitz, et que Dieu finalement n'a jamais rien fait dans tous ces domaines. Alors comment croire en Dieu après la guerre de 14? Et comment croire en Dieu après Auschwitz et les camps de concentration? Comment peut-on espérer dans un Dieu qui semble si peu capable, lui, de procurer la paix, alors que lui-même, il a fait, je dirais, le cœur même de ses promesses comme étant de donner la paix? Personnellement, aujourd'hui, si je ne suis pas moi dans une guerre politique, comme tout le monde, je suis en butte à de la violence, à de la méchanceté, à du conflit destructeur ou simplement usant. Et où est Dieu dans ce cas-là? Eh bien, Dieu est un Dieu de paix. Et le Christ est venu nous donner la paix. Mais le propre du message chrétien, c'est de penser que cette paix n'est justement pas une paix politique. Et c'est sur ce point que les chrétiens se séparent des juifs. Les juifs attendent du Messie qu'il apporte la paix politique. Et les chrétiens disent non, Jésus est bien le Messie et il apporte la paix en plénitude, mais la paix en plénitude ne se superpose pas avec la paix politique. Ce que Dieu donne, c'est la paix du cœur, c'est la paix intérieure. Ce que Dieu peut nous offrir, c'est la certitude d'être aimé, compris, consolé, quelles que soient les agressivités extérieures. Et ça, c'est une très grande force. Certainement, en un sens, cela n'est possible que par un certain détachement par rapport au monde. Et finalement, je le crois assez. Le monde matériel n'est que le théâtre du péché et de la finitude. La joie, le salut, la plénitude du royaume de Dieu, elle ne peut être trouvée qu'à l'intérieur de nous-mêmes, et ce n'est que dans une démarche d'intériorisation et pratiquement d'un certain détachement par rapport au monde et par rapport à nos conditions extérieures de vie que l'on peut le trouver. Finalement, ce monde matériel n'est que passager, et je crois qu'il est un peu secondaire. Et c'est pour cela que Dieu n'agit pas, parce que l'essentiel n'est pas là. Notre être est au-delà de tout cela. Et Dieu accomplit ses promesses en nous promettant d'être heureux et en paix, quelle que soit la situation matérielle. Il est donc une ressource extraordinaire qui fait que nous pouvons être heureux même dans le deuil et que nous pouvons être en paix même dans la guerre. Cela n'est pas simple, mais c'est néanmoins ce que nous pouvons obtenir avec la présence de Dieu. Pour cela, il faut chercher Dieu, il faut beaucoup le prier. Pour cela, il faut mettre sa main, il faut mettre sa vie dans ses mains paternelles, parce que lui, Dieu, nous donne la paix. Il nous donne en vérité et en plénitude cette paix que personne ne peut nous retirer, cette paix qui n'est dans la main d'aucun de nos adversaires, d'aucun de nos ennemis, cette paix qu'aucun tyran ne peut détruire ou nous retirer. Et Dieu, lui, nous donne les richesses que personne ne peut nous prendre, les richesses et les trésors qu'aucun voleur ne peut nous dérober, et il nous donne ce royaume qui, heureusement, n'est pas dans la main des hommes, mais dans sa seule main à lui. Et ce royaume, c'est le royaume de la paix, du bonheur, de la justice, de la tranquillité, de l'amour et de la vie. Et c'est tout cela que nous avons en sa présence, quelle que soit la situation extérieure. Amen.